Chapitre 2e. La liquidation de M. Desrosiers ouverte, quelques créanciers se présentèrent. En faisant valoir les droits qu'elle tenait de sa mère, Alexandrine pouvait sauver du naufrage une somme importante. Madame de Fougerolles l'engagea vivement à le faire et ne négligea pas cette belle occasion d'accuser son beau-frère d'imprévoyance et de prodigalité. Sur ce point toutefois, Mademoiselle Desrosiers ne voulut rien entendre. Elle déclara que tout ce qui lui revenait appartenait légitimement aux créanciers de son père et leur en fit immédiatement abandon. La baronne jeta Léo cri, mais toute la ville admira ce trait de délicatesse et de désintéressement. Ce fut tout de suite un concert d'éloges autour de Mademoiselle Desrosiers. Le notaire lui-même avoua que cette conduite était noble et généreuse. Cependant, il plissa le coin de ses lèvres en parlant et finit, pressé de s'expliquer, par déclarer qu'à son sens, cette conduite lui avait été inspirée bien plutôt par la tête que par le cœur. « Elle est fille de l'orgueil, » dit-il. « Mademoiselle Desrosiers tient à honneur de ressembler à personne. » Il profita néanmoins de l'occasion pour lui rendre visite et lui offrir ses services en qualité de vieil ami de la famille. Alexandrine, qui se souvenait de l'avoir vu fréquemment à une époque où une circonstance née du hasard ne l'avait pas encore brouillé avec M. Desrosiers, le reçut parfaitement. Il revint enchanté de leur conversation. Tout en elle l'avait ravi, le choix de ses expressions, le tour de ses idées, la fermeté de ses sentiments. Seulement, comment vanter autour de lui la noblesse de son maintien, sa grâce, son esprit, sa distinction ? « Oui, oui, dit-il, c'est un caractère. » On se récria sur l'étrangeté de ce compliment. « Un caractère, la belle merveille. Qui est-ce qui n'a pas de caractère ? Le singulier éloge que c'était là. » « Ah, vous croyez ? » répliqua M. Deschapelles en s'échauffant. « Un caractère, mais c'est ce qu'il y a de plus rare au monde. Personne n'a de caractère, ni vos amis, ni vous, ni moi. Moulin n'est pas un trou, eh bien, vous battriez la ville et les faubourgs, et peut-être n'en trouveriez-vous pas un second. Il y a des hommes qui veulent ceci et des femmes qui veulent cela, la belle affaire. Mais savoir ce que l'on veut, le vouloir bien, le vouloir toujours, être plein et entier dans sa volonté, voilà le magnifique. Et je ne sais que Mademoiselle Desrosiers qui soit de cette trempe-là. » Cela dit, M. Deschapelles huma une prise de tabac. On l'accabla de questions pour savoir au moins ce que voulait son héroïne, mais il se renferma dans un silence impénétrable et son petit discours fut mis au compte des boutades qui lui étaient si familières. Un matin, Alexandrine vit entrer chez elle Évariste, qu'elle n'avait pas vu depuis la mort de M. Desrosiers. « Je n'ai pas voulu troubler la douleur des premiers jours, » lui dit-il. « À présent, me voici. » Évariste paraissait embarrassé. Il la regardait et ne parlait pas, enfin faisant un effort sur lui-même. « Vous souvenez-vous, » reprit-il, « de l'entretien que nous avons eu sur le pont l'autre soir ?»« Oui, » dit Alexandrine. « Pourquoi me faites-vous cette question ?»« C'est que la main que je vous offrais est toujours à vous, et que vous me rendriez bien heureux en l'acceptant. Les circonstances ont peut-être changé. Qu'est-ce qui vous fait croire cela ?» demanda-t-elle vivement, et les yeux dans les yeux d'Évariste. « Pardonnez-moi d'entrer dans votre vie avec cette franchise, mais il me semble qu'un parent peut le faire. Parlez. »« Eh bien, je crois qu'il est parti. » Alexandrine pâlit légèrement. Elle prit un verre d'eau et l'avala. « C'est vrai, » dit-elle. « Vous m'en voulez ?» reprit Évariste. « Moi, vous en vouloir ? Pourquoi ?» L'expression de ses yeux s'adoucit et elle lui prit les mains. « Ainsi, c'est parce que je suis seul au monde et abandonné que vous venez à moi, » dit-elle. « Ne suis-je pas votre meilleur ami ? Gardez cette main que vous avez prise. » Et je vous remercierai de toute la force de mon cœur. » Alexandrine pencha la tête sur sa poitrine et réfléchit une minute. « C'est impossible à présent, » répondit-elle enfin. « Je donnerai volontiers la moitié des jours qui me restent à vivre pour vous consacrer l'autre. Mais il est trop tard. »« Trop tard à 20 ans ? » s'écria-t-il. « Vous ne me comprenez pas. L'âge n'y fait rien. » reprit Mademoiselle Desrosiers avec une sourde exaltation. N'avez-vous jamais vu de branche morte sur un jeune arbre ? Évariste voulut répliquer. Elle l'arrêta d'un geste.
« Non, croyez-moi, »
dit-elle avec force. « Il vous faut un cœur tendre et bon, qui vous puisse aimer entièrement comme vous le méritez. Et sincèrement, je n'ai pas ce cœur. Ou peut-être ne l'ai-je plus. Le mien est plein d'amertume et de fiel. Laissez-moi vivre seul. »
« Vous l'aimez encore ?»
s'écria Variste.
« En dehors de ma sœur et de vous, je n'aime rien, je vous jure. »
Il y avait dans la voix d'Alexandrine un tel accent de franchise que le doute était impossible, mais en même temps une telle âpreté qu'Évariste en tressaillit. Il comprit qu'il ne fallait pas insister. « Qu'allez-vous faire à présent ?» lui dit-il. « Je me retirerai chez Mademoiselle de Fougerolles. » Évariste se leva.
« Eh, malheureuse enfant !»
s'écria-t-il. « Vous ne la connaissez donc pas ?» Alexandrine lui jeta un regard tranquille.
« Vous croyez ? » dit-elle. « C'est possible.
Mais je verrai et j'attendrai. » Quand il quitta Mademoiselle du Rosier, Évariste ne savait pas encore ce qu'il ferait. Il éprouvait l'accablement d'un homme à qui son dernier espoir vient d'échapper. Le soir, il donna l'ordre de préparer ses malles et de les porter au chemin de fer. Puis il pensa qu'un malheur pouvait arriver à sa cousine. « Que fera-t-elle si je ne suis pas là ?» se dit-il. Et il resta. La supérieure du couvent où Louise avait été élevée demanda à la garder. La baronne n'eut garde de refuser. Elle ne serait pas opposée non plus au départ d'Alexandrine. Mais celle-ci déclara qu'elle aimait mieux rester auprès de Madame de Fougerolles et demanda à sa tante la permission, le jour même, de faire porter chez elle les quelques meubles auxquels elle tenait et tout son linge. Un refus eût excité l'indignation publique, et dans la crainte du scandale, la baronne lui répondit qu'elle serait la bienvenue. Madame de Fougerolles, on le sait, habitait alternativement Paris et la province. Elle possédait entre Moulins et Nevers, au bord de l'Allier, un château où elle passait la belle saison, et à Paris, rue de l'Université, un hôtel où l'hiver la rappelait. Cependant, il arrivait le plus souvent, comme on l'a vu, qu'à l'époque où elle avait coutume de se rendre dans ses terres, elle s'arrêtait à Moulins, où M. du Rosier lui offrait une hospitalité d'autant plus agréable qu'elle était moins coûteuse. Elle y prolongeait son séjour indéfiniment et s'y montrait fort accommodante, n'ayant rien à dépenser. Mais généralement, à moins de circonstances extraordinaires, au temps des vendanges, elle s'établissait à la Bertoche, où deux ou trois fois déjà, Mademoiselle du Rosier avait accompagné sa tante avant le triste événement qui l'y ramenait. La Bertoche avait, dans ses fortes constructions, qui dataient du XIVe siècle, quelque chose de la magnificence féodale et guerrière de ses voisins les châteaux de Grossouvre et d'Apremont, qui sont l'orgueil des coteaux de l'Allier. D'épaisses murailles, protégées par une énorme tour à mâchicoulis et entourées de douves, l'enfermaient de toutes parts. Le château portait dans ses flancs un vieux boulet envoyé par les canons de l'Anglais du temps des guerres de la Pucelle. L'Allier coulait au pied de la colline sur laquelle il était assis, et d'où la vue s'étendait au loin sur des plaines et des forêts au milieu desquelles le regard aimait à suivre le cours lumineux de la rivière. La portion du château habitée par la baronne faisait face à une large cour et se composait d'un pavillon carré avec deux ailes en retrait élevées d'un étage sur rez-de-chaussée. Un grand cadran, armé de longues aiguilles rouillées, marquait les heures au-dessus de la porte d'entrée. Les bâtiments construits sur les côtés de la cour servaient de logements aux gens de service, d'écuries, de granges et de remises. On avait fait une étable de la chapelle. La chambre que Mademoiselle du Rosier avait occupée déjà, et vers laquelle elle se dirigea aussitôt qu'elle fut arrivée à la Bertoche, était située à l'extrémité d'une aile et donnait sur la vallée. Un balcon de pierre en saillie lui permettait de voir une vaste étendue de pays. Cette chambre était grande et tendue d'une vieille tapisserie de Flandre à personnages. Un lit à baldaquin en occupait l'un des coins en face de la fenêtre. Alexandrine employa sa première journée à ranger les petits meubles qu'elle avait apportés de Moulins, ainsi que ses livres de prédilection. Deux ou trois fois, elle s'arrêta sur le balcon et regarda la campagne, sur laquelle un ciel orageux promenait de grandes ombres. Cette solitude, ce profond silence interrompu par le bruit du vent dans les arbres, convenait à la disposition de son esprit. Pendant les premiers jours, la vie que Mademoiselle du Rosier mena au château de la Bertoche fut triste et monotone. On ne voyait personne. Les soirées se passaient dans une grande pièce où Madame de Fougerolles recevait ses métayers. Elle faisait un ouvrage de tapisserie et sa nièce lisait ou brodait. À 10 heures, ses comptes réglés, la baronne rentrait dans sa chambre. De l'heure du souper à celle du coucher, on n'avait pas échangé 10 paroles. Au silence qui se faisait autour d'elle, Alexandrine mesurait l'étendue de la perte qu'elle avait faite, mais elle n'était pas abattue, et comme son père l'avait prévu, elle se roidissait contre le malheur. Après la secousse qui avait déraciné de son cœur le souvenir de M. de Mauvezin, cet isolement ne déplaisait pas à Mademoiselle du Rosier. Il lui donnait le temps de rassembler ses forces et de les éprouver avant la lutte qu'elle aurait à soutenir contre la vie. Elle se sondait elle-même en quelque sorte et cherchait à voir clair dans l'avenir. Quelques mots de sa tante lui avaient fait mieux comprendre la portée de l'exclamation arrachée à Évariste par la nouvelle qu'elle sortirait auprès de Madame de Fougerolles. Elle prévoyait de ce côté-là des mécomptes et des chagrins, mais elle s'y résignait et trouvait, en les attendant, un charme singulier à se promener seule sous les beaux ombrages de la Bertoche et à regarder le soir la campagne du haut de son balcon. Un incident l'attira de cette léthargie. Un matin, on remit à une certaine Madame Ledoux, qui avait le gouvernement du château sous la haute direction de Madame de Fougerolles, une note d'objet de parfumerie que Mademoiselle du Rosier avait pris chez un marchand de la ville. Élevée dans une grande recherche, Alexandrine avait l'habitude de ces petites nécessités de la vie élégante. Elle ne croyait pas que la ruine fût un motif d'y renoncer. Madame Ledoux, qui n'avait point reçu d'ordre, hésita et finit par présenter cette note à Madame de Fougerolles. Au premier coup d'œil, la baronne laissa voir toute son indignation. « 50 francs ? » s'écria-t-elle. « Voyez donc cette mijaurée. Ça n'a pas le sou et ça dépense en pots de pommade et en eau de senteur, plus que moi en mouchoir de toile et en bas de coton. Mademoiselle est si jeune. À son âge, on ne pense guère, répondit timidement Madame Ledoux, à qui la situation de Mademoiselle du Rosier inspirait une grande pitié. Si jeune? À 20 ans, je tenais mon ménage et, Dieu merci, on n'y voyait pas des notes de cette espèce. Ne payez pas. Alors, que faut-il que je fasse? Demanda Madame Ledoux. Vous remettrez cette note à Mademoiselle du Rosier et elle s'en arrangera comme elle voudra. C'est bien assez de l'héberger sans que j'aie encore à payer ses dettes. Mais non, donnez-la-moi, je lui en parlerai. Et Madame de Fougerolles arracha le papier des mains de Madame Ledoux qui se retira toute troublée. Alexandrine, qui ne se doutait de rien, rentra à l'heure du dîner d'une promenade qu'elle avait faite dans le parc. Madame Ledoux, qui l'attendait dans la cour, l'arrêta tout aussitôt qu'elle la vit. « Si Madame la Baronne vous parle d'une petite note de parfumerie, lui dit-elle, que cela ne vous inquiète pas, mademoiselle. J'ai de petites économies, je la paierai. » Une fenêtre s'ouvrit, on vit apparaître la tête de Madame de Fougerolles, et Madame Ledoux se sauva. Quand Mademoiselle du Rosier entra dans la salle à manger, Madame de Fougerolles était avec le maire du village, qui était venu la voir au sujet de certaines réparations à faire au chemin vicinaux, pour lesquelles la baronne devait des prestations en nature. Alexandrine ne s'était pas encore assise que sa tante lui présenta la note. « Qu'est-ce que cela ? » lui dit-elle. La voix était si cassante et si brève que Mademoiselle du Rosier releva la tête avant d'ouvrir le papier. « Mais regardez donc ! » reprit Madame de Fougerolles. « Ah, je sais, » répondit Alexandrine. « C'est le mémoire de mon parfumeur. »« Ah, vraiment? C'est donc pour vous, tout cela ?»« Oui, madame, pour moi seule. » Madame de Fougerolles s'empara de la note. « 50 francs! Comprenez-vous cela » s'écria-t-elle en s'adressant au maire. « 50 francs de pâte et de flacon !» Le maire, qui pensait à ses prestations et désirait que Madame de Fougerolles s'acquittât, leva les mains au ciel en signe d'étonnement. « 50 francs !» reprit-il.
C'est beaucoup d'argent. »
Le rouge monta au visage de Mademoiselle du Rosier.
« Permettez, monsieur, » dit-elle, « il s'agit de mes affaires et non des vôtres. »« Ah, c'est comme ça que vous prenez les observations ?»
ajouta Madame de Fougerolles.
« J'imagine alors que vous avez de l'argent pour solder vos fournisseurs. »
Mademoiselle du Rosier comprit que la lutte commençait. Si elle ne voulait pas être écrasée du premier coup, il fallait résister.
« Je n'en ai pas, vous le savez, » dit-elle en se redressant. « Mais il me reste deux ou trois petits bijoux que je tiens de ma mère, votre sœur, madame. Je les vendrai, et le produit me servira à payer ce mémoire. »
Madame de Fougerolles se mordit les lèvres.
« Fort bien, mademoiselle, » reprit-elle, « mais puisque nous sommes sur ce chapitre, permettez-moi un conseil qu'autorise mon âge et ma position. Vous portez des robes de soie, et ne vous gênez pas pour les traîner dans toutes les allées du parc. Quand on n'a pas de fortune, on pourrait, ce me semble, porter des robes moins coûteuses, surtout quand on a 10 doigts pour ne pas s'en servir. »
Mademoiselle du Rosier était pourpre, elle devint blême.
« Vous avez raison, madame, » répondit-elle, froidement, et elle s'assit à table. Pendant tout le dîner, elle affecta de parler avec une grande gaieté, mais rentrée chez elle et la porte fermée, elle éclata. Les larmes et les sanglots la suffoquaient. 20 fois, elle essaya de rentrer en possession d'elle-même, 20 fois, elle échoua. Son cœur était comme brisé. Elle arracha sa robe bien plus qu'elle ne la détacha et se mit à vider ses tiroirs dans une malle avec des mouvements convulsifs. « Maison maudite !» dit-elle.
« Oui, je la quitterai. Ah, elle veut que je travaille. Eh bien, je travaillerai. Mieux vaut encore du pain noir que tant d'humiliation. »
Puis tout à coup, et la malle à moitié pleine, elle la repoussa.
« Eh bien non !» s'écria-t-elle. « Je suis entrée dans cette maison, j'y resterai. »
Elle se regarda dans une glace. Son visage était couvert de larmes. Elle s'empara d'un mouchoir et le passa vivement sur ses joues et ses yeux.
« Voyons, j'ai 20 ans. Est-ce qu'on pleure à 20 ans » reprit-elle.
Elle courut sur le balcon et exposa son front brûlant au vent froid de la nuit.
« Ah, monsieur de Mauvezin !» murmura-t-elle. « Voilà encore un jour que je n'oublierai pas. »
À quelque temps de là, Madame de Fougerolles reçut la visite du vieux notaire avec lequel elle avait à rédiger des baux de ferme. Monsieur Deschapelles, heureux de revoir Alexandrine, pour laquelle il éprouvait l'affection d'un philosophe épris d'un problème, n'avait pas voulu laisser un petit clerc le soin de partir pour la Bertoche. Il trouva Mademoiselle du Rosier telle qu'il s'y attendait, calme, tranquille et sérieuse.
« Vous plaisez-vous ici ? » lui dit-il.
Mademoiselle du Rosier sourit légèrement.
« J'y vis des bontés de Madame la Baronne, » répondit-elle. « Je n'ai pas le droit de chercher à savoir si je m'y plais. »
Madame de Fougerolles feignit de ne pas entendre. Depuis le dernier mot par lequel Mademoiselle du Rosier avait terminé leur discussion au sujet de la note du parfumeur, il lui sembla que la victoire lui était restée, et elle n'était plus revenue sur cet entretien. La présence du notaire à la Bertoche lui fut un prétexte d'inviter à dîner le curé de l'endroit et 2 ou 3 des notables habitants avec leurs femmes et leurs filles. Dans ces sortes d'occasions solennelles, où la vanité de la baronne l'emportait sur son avarice, on tirait des armoires le vieux linge de Saxe damassé aux armes de la famille, on exposait sur les buffets la lourde argenterie et on mettait des bougies dans les grands candélabres dorés du temps de Louis XIV. Les meubles, débarrassés de leurs housses, voyaient le jour. Toute la maison était en l'air, et Madame Ledoux tremblait à la pensée du lendemain. À l'heure du dîner, Alexandrine descendit de sa chambre et entra dans le grand salon, magnifiquement éclairé. Elle était vêtue d'une robe de laine noire fort propre, mais fort vieille et fort usée. Aucun bout de dentelle, aucun brin de gêne en rehaussait l'austère vétusté. Madame de Fougerolles se leva.
« Mais à quoi pensez-vous, mademoiselle? Nous avons du monde !» s'écria-t-elle.
« Monsieur le curé et ces dames voudront bien m'excuser, » répondit Mademoiselle du Rosier, « mais je suis pauvre et je ne porte plus de robe de soie. »«
Oh, cher enfant, votre vertu vous fait une parure !» s'écria Monsieur le curé.
Les yeux de Madame de Fougerolles lançaient des éclairs
et le notaire, qui comprenait à demi-mot, se frotta les mains. Après le dîner, Mademoiselle du Rosier s'assit dans l'embrasure d'une fenêtre et, tirant d'un panier à ouvrage sa laine et son aiguille, elle se mit à travailler activement. Pendant un quart d'heure, Madame de Fougerolles, qui l'observait du coin de l'œil, la laissa faire. Autour d'elle, on causait et on jouait, mais voyant enfin que l'aiguille ne se lassait pas d'aller et de venir, « Mais, mademoiselle, dit-elle en s'efforçant de sourire, oubliez-vous donc qu'on ne travaille pas dans un salon ?»«
C'est vrai, répondit Alexandrine. Elle rejeta la laine et le canevas dans son panier, le prit, se leva, et alla s'asseoir dans l'antichambre où se tenait une fille de service. Un moment après, Madame de Fougerolles, ayant besoin d'eau chaude pour le thé, sonna. La fille s'était éloignée pour un instant. La baronne, impatientée, ouvrit la porte et vit Mademoiselle du Rosier. « Que faites-vous donc là ? » demanda-t-elle. « Je travaille, madame. Quand on n'a rien, il faut bien apprendre à se servir de ses 10 doigts. » Elle prit sa tapisserie et l'étalant aux yeux de M. de Deschapelles, qui par curiosité avait suivi Madame de Fougerolles. « On en pourra faire un coussin, » reprit-elle. « Quand il sera fini, vous m'aiderez bien à le vendre. » M. Deschapelles joignit les mains avec une feinte admiration. Mademoiselle du Rosier, la propre nièce de Madame la baronne de Fougerolles, qui travaille comme une ouvrière, et dans une antichambre encore. « Ah, c'est beau !» s'écria-t-il. « Dès mon retour à Moulins, je me fais une fête de parler de vos tapisseries à mes belles clientes. Je veux que ce coussin aille chez Madame la comtesse de Chéron. » À ce nom, Madame de Fougerolles tressaillit. C'était celui d'une dame qui tenait la tête de l'aristocratie bourbonnaise. « Laissez cela !» s'écria-t-elle en s'emparant de la tapisserie. « Occupez-vous plutôt à servir le thé. » Mademoiselle du Rosier s'inclina. « Je suis votre servante, madame, » reprit-elle, et elle rentra au salon. Mais cette première épreuve ne suffisait pas à Mademoiselle du Rosier. Au moment où la compagnie allait se retirer, elle s'approcha du notaire, les mains chargées de petites boîtes. « Voulez-vous me rendre un petit service qui ne vous coûtera rien ? » dit-elle avec un sourire. « Méchante, vous savez bien que je suis tout à vous, » répondit M. Deschapelles. « Eh bien, il s'agit d'offrir à l'un des bijoutiers de Moulins ces quelques bagatelles. Il y a une chaîne d'or, une petite croix de turquoise, des bracelets, tout mon écrin de jeune fille. Vous en tirerez le meilleur parti possible. Songez-y, c'est tout mon capital. » Les dames, qui mettaient leurs châles et leurs chapeaux, s'arrêtèrent pour écouter. Madame de Fougerolles sentait des fourmillements dans ses doigts. « Mais pourquoi vendez-vous tout cela ? » demanda le notaire, qui devinait à peu près et se faisait volontairement le complice d'Alexandrine. « Eh, mais pour acquitter cette note ? » reprit-elle en lui tendant la facture du parfumeur. « Le reste servira à payer les petites dépenses qu'exigera mon entretien. » Deux ou trois regards étonnés se portèrent sur Madame de Fougerolles. Le notaire prit les mains d'Alexandrine. « Donnez, mon enfant, donnez !» dit-il d'une voix mielleuse. « Ces bijoux n'iront pas chez un marchand. Je les mettrai en loterie et on s'arrachera les billets. Je vous en réponds. J'en prendrai, moi, qui n'en prends jamais. « Ah, Madame la baronne, » dit-il en se retournant vers Madame de Fougerolles. « Quel enfant la Providence vous a donné !» Si Madame de Fougerolles laissait partir M. Deschapelles avec les bijoux, elle le connaissait assez pour savoir que cette histoire de loterie défrayerait les conversations de Moulins pendant 3 mois. « Mais, » dit-elle avec un sourire contraint, « j'ai bien le droit de retenir aussi des billets. »« Sans doute, » répondit le notaire.
« Dans ce cas, je les prends tous. Les bijoux sont à moi et je prie ma nièce de les accepter. La note à présent me regarde. » Un premier succès avait signalé le commencement de la lutte. Mademoiselle du Rosier ne voulut pas en abuser et remercia Madame de Fougerolles devant tout le monde. Mais elle ne quitta plus la robe de laine et conserva dans ses ajustements l'apparence d'une pauvreté à la fois humble et fière. Elle ne renonça pas non plus à ses travaux de broderie et de couture et prit l'habitude de tailler elle-même ses robes. On était sûr de la trouver l'aiguille à la main, assise auprès d'une fenêtre, durant les heures qu'elle ne passait pas à la promenade. Ce travail obstiné, que n'égayait aucune chanson et dans lequel l'enchaînait une froide résolution,
encouragé, au grand déplaisir de la baronne, par les conseils paternels du curé et les éloges du notaire, lui rapporta bientôt quelque argent qu'elle employa en aumône avec une générosité qui entrait dans son caractère, mais qui cette fois n'était peut-être pas sans calcul. Ces aumônes ne se composaient guère que de menues monnaies et de quelques pièces blanches. Mais, distribuées judicieusement à propos parmi les pauvres gens qui en avaient un besoin réel, elles acquirent une importance bien autrement haute que leur valeur. Peu à peu, Mademoiselle du Rosier prit l'habitude de se promener chaque jour dans la campagne et d'entrer dans les chaumières qui se trouvaient sur son passage. Elle interrogeait les enfants sur les besoins de la famille et causait quelquefois avec les bonnes femmes qu'elle rencontrait menant paître leurs vaches. Comme tous les cœurs blessés, elle aimait la solitude des champs et le silence des bois, mais de singulières pensées la poursuivaient dans ses promenades, qui étaient en même temps un exercice salutaire pour son corps et un sujet de méditation pour son esprit. Un jour que le notaire la questionnait sur ses longues excursions qu'elle faisait dans les plaines et les vallons, « Je fais mon cours de philosophie, » répondit-elle avec un certain sourire qu'il connaissait bien. N'eût-on pas su dans le pays qu'elle habitait le château et qu'elle était nièce de Madame de Fougerolles, elle avait pour la protéger son attitude et son grand air. Les paysans n'osaient même pas la regarder en face quand ils lui parlaient, et leurs femmes se tenaient toutes droites devant elle et les yeux baissés lorsqu'elle était entrée dans leur chaumière. Quand elle suivait un sentier avec ses vêtements noirs, graves et silencieuses, les petits garçons se cachaient derrière les haies pour la suivre des yeux. Ils se poussaient du coude, n'osant presque plus respirer, et se disaient tout bas « Voilà la demoiselle noire qui passe !» Un jour qu'elle s'était égarée après un orage, elle demanda son chemin à un petit paysan. L'enfant ôta son chapeau et marcha droit devant elle sans répondre. Elle eut beau l'engager à se couvrir, il ne voulut rien entendre et resta tête nue jusqu'à l'entrée du parc. Là, il étendit le bras dans la direction du château, la salua et partit en courant. Le dimanche à la grand-messe, dès le premier pas qu'elle faisait dans l'église, tous les rangs s'ouvraient pour lui faire un passage, et bien qu'elle marchât derrière Madame de Fougerolles, la crainte et le respect étaient pour elle. Évariste et Louise la venaient voir quelquefois à la Bertoche. Les jours où elle les possédait ensemble étaient les seuls qui lui parussent heureux, mais ces distractions si douces n'étaient pas sans mélange. La présence de Louise lui apportait autant de paix et de sérénité que celle d'Évariste lui causait d'inquiétude. Il l'aimait toujours et cet amour la troublait. À l'époque des vendanges, Madame de Fougerolles, joyeuse d'une récolte qui s'annonçait superbe, engagea Évariste et Louise à rester toute une semaine au château. Ce fut le premier bonheur que Mademoiselle du Rosier ressentit depuis la mort de son père. Elle voulut que sa sœur partageât sa chambre et ne la quittât pas. Madame Ledoux, étonnée d'entendre rire dans ces mêmes pièces où l'on grondait toujours, tressaillait et regardait de tous côtés. Il lui semblait que des esprits traversaient le château. Bien souvent, les trois jeunes gens partaient ensemble le matin et faisaient de grandes promenades, soit en bateau, soit à pied. Évariste ramait. Alexandrine guidait la marche. Elle avait appris à connaître tous les sentiers et conduisait la petite troupe dans les sites les plus agrestes. Quelquefois on mangeait sur l'herbe les provisions emportées dans un panier. Quelquefois on s'arrêtait dans une auberge de village où l'on déjeunait gaiement. Dans ces circonstances, Mademoiselle du Rosier, dégagée de la contrainte où elle vivait, redevenait jeune. Elle était comme une plante qui, longtemps cachée à l'ombre, s'épanouit enfin sous les rayons du soleil. On la sentait revivre. Un matin qu'elle s'était montrée plus expansive encore et toute rieuse de ce rire joyeux et frais qui va si bien aux lèvres jeunes, elle s'arrêta, avec Évariste et Louise, auprès d'une maisonnette devant laquelle s'étendait une pelouse ombragée de grands arbres. Un chien dormait à l'ombre, et de la porte on voyait au loin la campagne, piquait çà et là de clochers pointus. Tout riait, le vent dans les feuilles et le soleil sur l'eau. Le silence et la paix entouraient cette maison, qui semblait faite pour abriter un bonheur à deux. Un écriteau sur lequel on pouvait lire ces deux mots « à vendre » pendait sur le mur. Évariste ne put maîtriser les sentiments auxquels il imposait silence depuis si longtemps. Il saisit la main de Mademoiselle du Rosier
et la regardant avec des yeux dont elle pouvait à peine supporter le langage muet.
« Ah, si vous vouliez !»
dit-il, mais il n'osa pas continuer. Elle lui prit le bras vivement, et pressant le pas, elle regagna le château sans parler. Mademoiselle du Rosier s'était réfugiée dans sa chambre, où seule, elle n'avait plus peur de laisser voir son trouble, lorsque sa sœur entra tout à coup. Louise était tout en larmes et se jeta dans ses bras avec un élan extraordinaire.
« Ah, ma chère sœur, dit-elle, qu'Évariste est malheureux. »
Alexandrine frissonna de la tête aux pieds.
« Qui te l'a dit ? »
répondit-elle.
« Lui, tout à l'heure, après que tu nous as quittés pour courir chez toi. Il m'a entraîné dans une allée du parc et là il m'a ouvert son cœur. Ah, comme il t'aime ! Comment peux-tu te résoudre à faire tant de peine à une âme si tendre, si dévouée ? As-tu jamais rencontré quelque part un si bon et si brave jeune homme ? Il me semble à moi qu'il suffit de le voir pour le connaître. On lit sur son visage. Il avait des larmes dans les yeux en me parlant. C'est notre parent, notre ami. Et tu lui fais ce chagrin quand il te serait si facile de le rendre heureux ? Ah, que c'est méchant ! Il m'a toute bouleversée, ce pauvre Évariste. Je ne savais plus que dire, mais je me suis bien promis de t'en parler. Lui, désolé, lui, malheureux, c'est bien mal. Je ne m'en consolerai jamais. »
Le cœur de Louise sautait dans sa poitrine, des pleurs coulaient sur ses joues. Elle serrait Alexandrine dans ses bras avec des mouvements si convulsifs que sa sœur, tout étonnée, la regarda.
« Mais tu l'aimes ? »
dit-elle tout à coup.
« Oui, je l'aime, et je voudrais qu'il fût heureux. »
Louise leva sur Alexandrine ses grands yeux limpides, et avec la naïveté d'un enfant, elle se mit à ses genoux.
« Je devine à peu près ce que tu veux me dire, » reprit-elle, « mais ce n'est pas cela. Moi, je ne suis rien. Je suis votre sœur à tous deux, et c'est tout. Toi, tu tiens son cœur entre tes mains. Si je venais à mourir, il pleurerait bien un peu parce qu'il est bon, mais s'il te perdait, il n'y survivrait pas. Je ne croyais pas, avant de l'avoir entendu, qu'on pût aimer comme cela. Si je te le dis, c'est pour te bien faire comprendre que je ne sens pas les choses comme d'autres les sentent. Seulement, quand je vais me retrouver seul dans ma cellule, je voudrais y emporter cette pensée qu'Évariste est heureux et que tu es heureuse par lui. Si tu n'aimes pas autant qu'il t'aime, ne lui dois-tu pas quelque chose et ne feras-tu rien pour moi qui t'en supplie ?»
La voix de Louise était si douce que la résolution de Mademoiselle du Rosier en fut presque ébranlée. Elle se pencha sur elle et l'embrassa tendrement.
« Ai-je gagné ? » dit Louise.
Alexandrine allait répondre, lorsqu'elle sentit sous sa main le craquement d'un papier qu'elle avait laissé la veille dans sa robe. Elle l'en tira et reconnut la lettre que M. de Mauvezin lui avait écrite il y avait quelques mois. Ce fut comme si elle avait mis le pied sur un serpent. Le sourire qu'on voyait autour de ses lèvres s'effaça, elle ferma les yeux à demi et se leva brusquement.
« Tu ne dis rien ? » reprit Louise.
Les sourcils d'Alexandrine se touchèrent par la pointe.
« Eh bien, dit-elle, je verrai Évariste et je lui parlerai. »
Mais déjà elle n'était plus la même. Mademoiselle du Rosier venait de se retrouver tout entière. Deux fois pendant la soirée, elle se rapprochait d'Évariste, se souvenant de la promesse qu'elle avait faite à Louise, et deux fois elle s'arrêta. La nuit, elle s'enferma dans sa chambre et, profitant du sommeil de sa sœur, elle écrivit la lettre que voici. « Dieu m'est témoin, mon cher Évariste, que je vous aime autant que je puis aimer. S'il fallait tout mon sang pour vous rendre heureux, je le verserais jusqu'à la dernière goutte. Mais vous donner ma main, c'est impossible. Vous m'en voudrez peut-être de cette franchise, mais j'ai toujours pensé qu'avec les gens qu'on estime, mieux valait être cruel que dissimulé. Et puis vous êtes un homme, et si grande que soit la place que j'occupe dans votre existence, d'autres soins peuvent encore la remplir. J'ai sondé mon cœur, et bien qu'il vous appartienne par moitié, j'ai trouvé qu'il n'était pas tel qu'il le faudrait pour assurer votre bonheur. Il est ulcéré profondément, et un cœur qui saigne n'est pas fait pour vous. N'allez pas au-delà de ma pensée, mon ami, vous vous tromperiez, et cette erreur même vous ferait du mal. La cicatrice est faite sur la blessure que j'ai reçue, mais la trace y reste, et vous souffririez de la voir. Je ne suis plus celle que vous avez connue au temps de ma première jeunesse, un peu hautaine peut-être, un peu dédaigneuse et le laissant trop voir, mais avec de bons et d'honnêtes instincts, aimant le bien, peut-être par mépris du mal, enfin l'aimant. De ce passé, il ne me reste qu'une indomptable fierté. J'étais frappé à la fois dans les coins les plus sensibles de mon cœur et frappé par ceux-là même qui me devaient aide et protection. Le vieux notaire, que vous connaissez bien, m'a dit que c'était souvent comme cela. Je ne le savais pas alors. Que de larmes n'ai-je pas versées une nuit. Elles sont tombées comme du plomb sur les fibres les plus intimes de mon être. J'en tressaille encore, mais je ne pleure plus. Je n'ai pas oublié, croyez-le, cette scène du pont où vous m'avez parlé avec un langage dont je ne comprenais pas bien alors la droiture et la vérité. La croyance que j'avais en moi, croyance bien voisine de l'orgueil, m'a perdu. Comme la perrette de la fable, j'avais mis toutes mes espérances, tout mon trésor, dans un pot au lait. Un matin, je me suis réveillé par terre et toute meurtrie, le cœur et les mains vides. À présent, il faut que je me relève. Ne me demandez pas quel est mon but. Peut-être n'en sais-je rien moi-même. Dans cette solitude que je me suis choisie, je regarde et j'attends. Deux fois, vous avez voulu m'en tirer. Une première fois avant que j'en eusse goûté les amertumes, une seconde après que cette dure épreuve eût été faite. Merci, cher et bon Évariste. Tout ce qui reste de tendresse en moi, vous en remercie. Mais dites-moi, que feriez-vous d'une pauvre fille qui ne sait pas même si elle n'aura jamais la force d'aimer sans avoir non plus l'honnête hypocrisie de vous le cacher? On m'a raconté que les louves blessées se sauvent au fond des bois, et que là, dans un isolement sombre, morne, irrité, farouche, elles attendent la guérison ou la mort. Il me semble, ne riez pas, que je suis un peu semblable à ces louves. Quelque chose de sauvage est en moi qui gronde et menace toujours. Vous tenteriez vainement de me guérir. Le temps n'est pas venu. Il faut que ma résolution soit bien arrêtée pour avoir pu résister aux prières de l'ange qui dort près de moi et dont j'aperçois dans l'ombre le sourire endormi. C'était là le cœur qu'il vous fallait, Évariste, un cœur tout pétri de tendresse et de bonté, mais Dieu ne l'a pas voulu. Aussi longtemps que vous resterez près de moi, vous trouverez une main prête à serrer la vôtre. Vous serez l'ami secret de mes pensées. Si vous partez, je n'ai pas le droit ni la volonté de vous retenir. Je ne sais pas s'il leur sonnera jamais où je pourrai vous dire « Restez ». Mais bien souvent, vous serez attendu et regretté, et si loin que vous alliez, mon souvenir fidèle vous suivra. Adieu, Évariste, et toujours au revoir, quoi qu'il arrive. Je vous envoie le baiser d'une amie et les deux mains d'une sœur. Après qu'Alexandrine eut terminé cette lettre, elle la signa, le cœur ému, mais la main ferme. Cependant, Évariste, en cherchant bien, eut découvert la trace d'une larme tombée auprès de la signature.